Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour Apolline.
Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je le disais à l'instant sur BFM TV, vous jetez un pavé dans la mare des Insoumis. Mais ça fait quelques temps que vous demandez
un
à ce qu'il y
ait pavé.
Un changement. On va revenir, vous assumez pas complètement. Mais je voudrais bien sûr...
Ah si.
Vous commencez tout de suite par dire un petit pavé.
Non, j'assume totalement. J'ai écrit un texte qui est public, assez long d'ailleurs, qui pose des jalons pour que nous soyons capables de franchir un cap à la France insoumise. Donc j'assume pleinement de le faire. De là à dire que c'est un pavé dans la mare, ça me paraît un peu
on
exagéré.
On va y revenir dans un instant sur les changements que vous appelez. Mais d'abord, cette taxation des super profits. Finalement, Elisabeth de Borne est peut-être de gauche.
Non, alors là, il n'y a pas de doute, et de droite, comme on disait. Ce qui est même très frappant, c'est comment cet extrême-centre est capable de nous faire passer des positions qui sont des positions irresponsables, irresponsables sur le terrain environnemental, irresponsables démocratiquement, irresponsables socialement, pour des positions qui sont des positions finalement dogmatiques.
Quand elle dit, Elisabeth Borne, pourquoi pas taxer les super profits? Vous pourriez quand même dire cette phrase.
Non, écoutez, là pour l'instant...
C'est pas de vous qu'elle s'est inspirée.
Non, au mois de juillet, nous avons fait des propositions concrètes, des amendements, pour qu'il y ait ces taxes sur les super profits. Vous savez que là, par exemple, en un trimestre, 44 milliards d'euros vont être redistribués en dividendes aux actionnaires. Dans un moment où les gens sont pris à la gorge, c'est-à-dire, vous le savez très bien, avec l'inflation, avec des prix de l'alimentation qui ont explosé, l'énergie, les gens sont pris à la gorge aussi parce que les salaires n'ont pas augmenté. Donc la situation est difficile pour la majorité des Français, voire même impossible. Et pendant ce temps-là, vous avez en haut du panier des gens qui se gavent avec des milliardaires qui sont toujours plus riches. Et ça, c'est inacceptable.
Donc, quand la première ministre dit, il faudra que les entreprises fassent un gros effort en matière d'électricité, baisser de 10% la consommation d'électricité.
Oui.
Et si vous ne le faites pas, alors nous sommes prêts à taxer les super-profits.
Bien sûr, mais regardez le deux poids deux mesures. Vous avez, vis-à-vis des chômeurs, une troisième loi qui va arriver à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Troisième loi, ils en ont fait deux sous le précédent quinquennat, qui diminue les droits et les protections des gens qui se retrouvent en difficulté puisqu'ils sont au chômage. Et par contre, quand il s'agit de ceux qui s'en mettent plein les poches dans ce moment de crise, alors on leur demande gentiment, on quémande, comme si on faisait la manche pour leur dire « vous ne voudriez pas faire un petit effort ». Même Monsieur Antonio Guterres, vous connaissez.
De l'OMS. Hein,
voilà. Qui dit très simplement que tous les gouvernements devraient aujourd'hui être capables de faire ces propositions, c'est-à-dire de mettre en place des taxes qui permettent de contraindre et de remettre dans le pot commun. Vous savez, Apolline de Malherbe, le partage des richesses, aujourd'hui, c'est une question absolument clé. Absolument clé. C'est pas l'OMC, c'est l'ONU.
Oui, c'est ça. Je voudrais quand même revenir sur cette question des taxations, parce qu'on n'a pas encore les contours. C'est-à-dire, ni d'ailleurs dans votre proposition, ni, a fortiori, dans celle d'Elisabeth Borne, puisqu'on n'en est qu'au début du pourquoi pas.
Mais vous vous rendez compte, pourquoi pas? Non, mais voyez où on en est? Non, mais franchement... C'est indécent.
Je ne ferme pas la porte. Voilà l'expression.
Pourquoi il ne ferme pas la porte? Pourquoi il ne ferme pas la porte? Parce que nous avons mis cette question sur la table et que cette proposition est populaire. Et d'ailleurs, vous voyez l'offensive, nous la menons, puisque nous avons lancé une pétition.
On va être un peu honnête quand même.
Et que nous allons suivre.
Vous n'êtes pas la seule à l'avoir mis sur la table.
Bien sûr.
En France, vous êtes deux partis à être pour la taxation des super-profits, vous et le Rassemblement National.
Alors écoutez, quand je vois ce qu'ils ont voté globalement, c'est pas tout à fait la logique que nous défendons de partage des richesses.
Ah, moi je sais pas quelle est la logique que vous défendez et si elle est différente.
Enfin, vous recevez régulièrement le Rassemblement National ici et vous n'arrivez absolument pas au même résultat parce que globalement le programme du Rassemblement National ne vise absolument pas à partager les richesses, ne vise pas à s'attaquer à ceux qui ont le plus. Il vise à nous expliquer que le problème majeur en France, ce sont les étrangers, les immigrés en particulier.
Du programme. Sur la taxation des super-profits, ils demandent à taxer les super-profits.
Ils savent que aujourd'hui dans le monde populaire...
Je comprends
populaire,
que ça vous mette mal à l'aise d'avoir une proposition qui est la même que le Rassemblement National, mais enfin, c'est les faits.
Ça ne me met absolument pas mal à l'aise. Je connais le Rassemblement National, je sais l'opportuniste dont il est capable de faire preuve sur le terrain social, surtout par ces derniers temps, avec une logique de triangulation. Ce que je vous dis très sereinement, c'est que le Rassemblement National, dans la logique politique qui est la sienne, ne vise absolument pas à partager les richesses.
Mais aujourd'hui, cette idée de taxer les super-profits,
mais parce qu'on arrive à un tel niveau.
C'est eux, et c'est peut-être demain Elisabeth Borne. Il pourrait y avoir un consensus.
Bah, il faudrait écouter, c'est le minimum.
Donc là, tant mieux. Vous dites consensus, si on est tous d'accord, tant mieux.
Mais évidemment, tant mieux. C'est le minimum dans ce moment de crise terrible que nous traversons. Et c'est pourquoi la mesure est populaire. Mais pour l'instant, ça n'est toujours pas à l'ordre du jour concrètement de ce gouvernement qui tergiverse. Alors qu'il ne tergiverse pas quand il s'agit, encore une fois, d'expliquer que les chômeurs sont responsables de leur situation et qu'on va encore leur rendre la vie la plus difficile.
J'en reviens à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire quel contour. Si on taxe les super-profits, est-ce qu'on taxe les super-profits uniquement des très grosses boîtes? Est-ce qu'on taxe les super-profits de toutes les boîtes? C'est-à-dire, est-ce que toutes les entreprises qui ont fait un profit exceptionnel depuis 2 ans doivent mettre la main à la pâte? Ou en gros, est-ce que c'est...
Vous savez très bien que, en tout cas, Total et dans les entreprises du CAC 40, moi je pense qu'il faut...
En tout cas, ce seraient les entreprises du CAC 40.
Non, mais là, il faut arrêter. Je vous ai dit tout à l'heure ce chiffre, je le redis très sereinement, mais qu'on l'ait en tête. 44 milliards en 3 mois qui sont reversés en dividendes. Reversés en dividendes. Pas réinvestis. Faire de la recherche sur la transition écologique, reverser pour augmenter les salaires dans ces entreprises. Non, en dividendes, 44 milliards. Et pendant ce temps-là, vous avez une situation infernale en cette rentrée où on n'a pas d'enseignants parce qu'ils sont tellement mal payés qu'on se retrouve aujourd'hui acculés, ceux qui étaient censés être des nantis, vous savez, les professeurs. Les agents de la SNCF, il manque 1200 agents à la SNCF. Un peu curieux quand même pour un secteur de nantis. Pour les crèches, on nous explique maintenant, il y a eu un décret au mois d'août.
Qui a dit qu'ils étaient des nantis, les agents de la SNCF?
Vous avez jamais entendu que ceux qui faisaient grève, les cheminots?
Non, personne n'a dit que c'était des nantis.
Au moment de la réforme des retraites, quand on a expliqué qu'ils avaient un système de privilégiés, quand on explique que les enseignants sont des privilégiés parce qu'ils ont trop de vacances. Voilà, c'est ça. Et la réalité, c'est que comme on a sans cesse diminuer leurs conditions de travail et rendu des salaires, enfin, et que leurs salaires sont sans cesse contraints, eh ben, je suis désolée, on se retrouve dans la pénurie dans laquelle on est. Donc c'est le chaos. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est le chaos. Donc pendant que, en haut du panier, il y a tant d'argent redistribué, vous avez en bas un chaos qui touche à des secteurs fondamentaux, l'hôpital qui est
l'hôpital,
en
l'éducation, les transports,
les crèches. Un décret, je vous disais, un décret qui est sorti au mois d'août et qui explique que dans les crèches, aujourd'hui, on peut recruter des personnels non qualifiés. Non qualifiés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des job dating pour des enseignants de premier degré. Mais on va où? C'est de la maltraitance vis-à-vis de nos jeunes. C'est de la maltraitance.
Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'en fait, effectivement, il manque du personnel. Je reprends votre exemple des crèches. Pour gérer l'urgence, ils disent on va accepter des gens même s'ils n'ont pas eu le temps d'avoir une formation. Vous vous dites, on prend pas ces gens qui ont pas de formation. On fait quoi? Donc on laisse des enfants sans solution de garde.
Mais c'est comme tout le reste.
Mieux vaut pas de profs que des profs peu qualifiés.
Mais non, mais voyez où on arrive. On arrive dans cette situation.
Mais je sais bien,
c'est la question qu'on se pose. Ouais. Voilà, si on pouvait arrêter.
Mais cela dit,
si
on trouvait une solution en urgence, vous feriez quoi, vous?
Non, il faut arrêter la catastrophe et il faut organiser.
Oui, mais justement, pardon,
organiser.
Je vous pose la question très concrètement.
Augmenter les salaires.
Il y a pas de profs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrute quand même?
On change les conditions de travail des enseignants.
Non, voilà.
Si vous voulez recruter, il faut que le métier
devienne attractif. Je vous parle de la rentrée dans 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait dans 3 jours?
Écoutez, je préfère qu'on regarde sur déjà ceux qui ont passé le concours que de faire tout et n'importe quoi, voilà, dans l'urgence.
Donc on accepte des gens, y compris des gens qui ont passé le concours mais qui ne l'ont pas réussi.
Je ne suis pas responsable de cette situation catastrophique. Et
je
moi,
sais bien,
ce
mais
que
si
je
vous
dis,
arriviez au gouvernement aujourd'hui, si vous arriviez au pouvoir comme vous le souhaitez, vous devriez bien la gérer, cette situation.
Mais moi, je veux attirer
vous
l'attention.
Vous n'avez pas répondu, ce n'est pas de ma faute.
Non, Mais j'attire l'attention de toutes celles et ceux qui nous regardent sur le fait que la Macronie, visiblement, a l'impression que c'est des jeunes giscardiens qui sont sortis du formol, là. Mmh. C'est ça qui se passe. Hein. Ils ont 40 ans de retard. Et quand vous voyez la situation en Angleterre, c'est un chaos encore plus grand. Alors, parce qu'effectivement, l'inflation est beaucoup plus forte, elle est de l'ordre de 13%, mais surtout parce que, justement, tous les services publics, les biens communs, les protections ont été laminées. Et ça amène au chaos. Or, là, le gouvernement s'entête, si vous voulez, dans une logique qui est une logique de dérégulation, de flexibilité, de concurrence libre et non faussée, d'austérité budgétaire. Tout ça, ça ne marche pas. Ce sont de vieilles recettes. Et c'est pour ça que je vous disais au début que c'est l'extrême-centre. C'est l'extrême-centre qui, de façon dogmatique,
pour vous,
continue de nous emmener
dans
le mur. Même sur l'écologie. Vous avez des incendies, la sécheresse, etc. Et Météo France... qui a eu son budget sabré, vous le savez, l'ONF.
Son budget et ses effectifs.
L'ONF, budget sabré. Et après, on nous dit, vous n'avez pas prévu ce qui s'est passé en Corse avec les incendies. Mais évidemment, si vous avez moins de personnel, vous regardez moins près pour
donc
évaluer la situation.
Donc, il y a une forme de
situation.
Responsabilité de la part du gouvernement aussi dans l'impréparation ou l'incapacité à gérer la crise climatique cet été. Clémentine Autain, il y avait la rentrée ce week-end des différentes composantes de la NUPES. Est-ce que manger une entrecôte cuite sur un barbecue est pour vous un symbole de virilité ?
Écoutez, c'est Sandrine Rousseau qui l'a dit visiblement dans une conférence, voilà, où elle, j'imagine que j'ai pas écouté, mais j'imagine qu'il y a eu plein de choses avant, plein de choses après. C'est sorti un peu du contexte général de son propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que on le sait, la sociologie en fait nous explique qu'en effet, il y a une dimension, enfin en tout cas une différence entre les sexes très forte. Vous savez par exemple que les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes.
Donc manger de la viande,
il y a bien un rapport.
C'est un signe de virilité.
En tout cas, il y a une différence des sexes dans la façon dont nous consommons de la viande. Pareil, le véganisme ou les personnes qui décident de devenir végétariens sont majoritairement des femmes.
Donc, il y a bien un rapport. C'est votre rôle, différent. À vous, politique, de faire changer ça.
Alors, pour ce qui est de la consommation de la viande, on a un problème.
Changer la question du comportement en fonction des sexes. Je vous pose la question parce qu'elle n'a pas juste dit, Sandrine Rousseau, que c'était un signe de virilité. Elle dit qu'il faut le faire changer. Sa phrase exacte, c'est « il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité ».
Oui, c'est-à-dire ce qu'il faut changer. Si on veut aller vers l'égalité, c'est l'objectif, on est tous d'accord, je crois.
Bien sûr.
Donc, si on veut avancer vers l'égalité, il faut en effet s'attaquer au virilisme. Et faire en sorte que il y ait une égalité entre
donc
les sexes.
Donc vous avez envie de faire le barbecue, vous, par exemple?
Je ne fais pas le barbecue.
Donc voilà. Pour une fois qu'ils font
c'est
la cuisine,
je ne fais pas, je reconnais.
Pour une fois qu'ils font la cuisine, on va le leur reprocher.
Non, mais pourquoi je ne fais pas le barbecue? C'est une vraie question. Je pourrais moi aussi le faire et spontanément, c'est pas moi qui le fais.
Vous faites pas déjà tout le reste?
Je ne suis pas forcément. Non, moi, alors, en l'occurrence, je ne fais pas du tout le reste. Mais j'entends bien que ma situation n'est pas représentative et j'ai beaucoup de chance de ne pas faire tout le reste.
Mais est-ce que c'est le rôle des politiques aujourd'hui s'attaquer à ce qui se passe dans nos jardins ou dans nos cuisines?
Oui, heureusement, ça c'est quand même l'apport du féminisme. Hein. Vous savez, heureusement qu'on s'est occupé. Si vous dites qu'à la maison, chacun se débrouille dans son foyer, et alors que vous savez que 80% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est un problème social et politique. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut une loi pour exiger la parité dans celles et ceux qui allument le barbecue. Vous voyez bien que c'est absurde. Mais en revanche, d'avoir un discours qui prend en considération l'ensemble, oui, je crois que ça fait partie de notre rôle.
Et le virilisme à la tête de votre parti, Clémentine Autain?
À la tête de tous les partis politiques, dans le monde politique, bien sûr, qu'il y a toujours à dire hein, sur l'égalité entre les hommes et les femmes en politique. Ça, je vous assure que c'est un sujet. D'ailleurs, j'avais fait un colloque à l'Assemblée nationale et ça suffit pas, vous voyez, pour régler le problème.
Non, visiblement, ça n'a pas suffi. En fait, ce que vous dites quand même à longueur de temps, et vous le dites depuis quelques temps, hein, vous l'aviez d'ailleurs dit à mon même micro en 2019, vous aviez dit qu'il fallait changer le mode de fonctionnement de la France insoumise. Vous en avez rajouté une couche la semaine dernière. Nous avons un cap à franchir pour faire grandir et gagner LFI. En vrai, ce cap, c'est quoi? C'est sortir du tout Mélenchon?
Non, alors c'est pas du tout ce que je propose là tout de suite. En réalité, pour franchir le cap, c'est pas la question de Mélenchon.
La question des instances dirigeantes. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que
militant.
La tête d'LFI, le leader naturel d'LFI aujourd'hui, ça reste Jean-Luc
pas
Mélenchon.
D'ailleurs, en fait, dans ce que je propose, c'est pas simplement la question de la direction, même si j'en parle et elle est importante. En fait, franchir ce cap. Vous rendez compte que nous sommes passés de 17 députés à 75 députés.
C'est déjà un sacré cap quand même.
C'est nos universités d'été, nos amphis, il y avait plus de 5000 personnes. C'est énorme. D'ailleurs, c'est la plus grosse université d'été de toutes les formations politiques. Donc, on est en train de franchir un cap. Et pour bien le franchir, il me semble que nous avons besoin d'accroître notre implantation locale. Et pour cela, il faut qu'on ait des mécanismes qui permettent de donner des moyens localement à nos militants de pouvoir faire le travail, et notamment dans la course de vitesse que nous avons avec l'extrême droite, où nous savons que sur un certain nombre de territoires en particulier, c'est notre présence humaine qui va être déterminante. Donc il faut, voilà. Ensuite, en effet, je pense qu'il faut qu'on délimite mieux les lieux, les espaces de décision, les espaces de débat aussi sur la stratégie.
Vous dites, où sont prises les décisions, les lieux de la prise de décision restent flous, l'espace du débat stratégique n'est pas identifié.
Voilà, c'est pourquoi je pense que nous avons besoin de mettre à jour
notre...
Vous y
allez, mais vous n'y allez pas complètement. Et ça fait deux ans d'ailleurs que c'est le cas.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur qu'on vous le reproche?
Non, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime dans la France insoumise depuis le démarrage, vraiment, c'est qu'il y a une volonté d'expérimenter une forme d'organisation qui ne ressemble pas aux partis du XXe siècle. Pendant très longtemps, on a eu des partis, c'était pyramidal, alors avec un mode dit démocratique, mais qui donnait des congrès, une forme qui finalement tournait beaucoup les cadres et les militants vers l'interne. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de plus fluide, tourné vers l'extérieur, vers l'action, et qui ne passe pas sa vie en fait dans des débats internes infernales, et qui fiche des majorités et des minorités. Vous voyez ? Qui sont figés, ou finalement à la fin on ne sait même plus pourquoi les gens s'engueulent. Donc la France insoumise, elle a cherché et elle cherche une forme d'organisation qui soit nouvelle et qui corresponde mieux aux aspirations des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément toujours envie d'être perdus.
Mais c'est encore imparfait, quoi.
Ça peut avoir les travers à ce stade inverse aussi.
Est-ce que le travers, c'est celui...
gazeux, vous voyez bien, je pense que nous arrivons aux limites du gazeux.
Est-ce que le travers, c'est pas justement une question
peut-être d'excès? Donc j'assume ce que j'ai dit à Pauline de Malherbe.
C'est là-dessus que tentent de vous attaquer vos opposants. Je pense notamment à Olivier Véran, qui est donc évidemment le porte-parole du gouvernement et qui était sur BFM TV hier. Écoutez comment il parle de Jean-Luc Mélenchon.
Comme d'habitude, notre planète brûle et Jean-Luc Mélenchon voudrait qu'on le regarde lui. Il veut être au centre de l'échiquier politique et donc on est dans la caricature permanente sur la forme d'ailleurs. Ça ressemble moins désormais à un discours politique et à un one-man show que sur le fond. Vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant, comme on dit. Et Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, est à nouveau très excessif.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Clémentine Autain?
Non, c'est insupportable en fait. Je trouve ça très insupportable. On pourrait dire la même chose de Macron dans ce cas-là. Voilà, il se regarde lui, le monde brûle, là, la planète brûle, et la France a brûlé singulièrement cet été, et que fait le président de la République? C'est eux qui sont en responsabilité. C'est indécent de dire des choses pareilles. Nous, ce qu'on dit, c'est que, sur le climat en particulier, c'est quand on sait qu'on a 63 Français, des milliardaires, qui émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié des Français. Vous m'entendez? 63, autant que la moitié des Français. Voilà.
Donc c'est ça qui est indécent.
Ça, c'est indécent. Ça, et que le président de la République soit sur ses jet skis pendant l'été, ça, c'est indécent. Voilà.
Clémentine Autain, l'imam Iqusen, qui devait être expulsé, en tout cas c'était la volonté du ministre de l'Intérieur, décision qui a d'abord été cassée par le tribunal administratif, et on attend aujourd'hui ou demain la décision du Conseil d'État d'autoriser ou non l'expulsion de cet imam. Est-ce que pour vous il faut l'expulser?
Écoutez, moi je suis pour l'état de droit. Voilà, moi je suis une femme de principe, je suis pour l'état de droit. Cet imam a proféré des propos qui sont... Non seulement je ne les partage pas, mais je les combats profondément. Donc ça nous pose un problème. Mais
sur les femmes, sur les homosexuels,
sur les femmes,
les juifs.
Exactement. Sur les femmes, les homosexuels, les juifs. Et ces discours-là doivent être combattus. Franchement combattus. Hein, politiquement combattus. Mais après, quand on les combat, il faut le faire toujours avec l'état de droit. Donc moi, c'est ça qui m'importe, si vous voulez. C'est
donc,
de
si
mener le combat
d'état,
politique.
Si le Conseil d'État dit non, ça ne correspond pas exactement à notre état de droit, on ne change pas la loi pour autant.
Exactement.
Tant pis, on le garde.
Exactement. Exactement.
Clémentine Autain.
Vous savez, on ne combattra pas l'obscurantisme. On ne combattra pas, justement, tous les propos, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, si on n'est pas dans une logique de principe et d'état de droit. Voilà, c'est très important. Si
l'état de droit, soit la loi est telle qu'elle est, c'est par accord.
On peut toujours changer la loi.
Soit on change la loi en considérant qu'il faut quand même l'expulser. Dans ces cas-là, on change la loi et on sera d'accord avec la loi.
Oui, mais quand je dis état...
Vous ne voulez pas aller jusque-là, jusqu'à changer la loi.
Je dis que nous sommes aussi dans un climat dont il faut faire très attention, parce qu'il y a une espèce de tendance à vouloir faire du contrôle social partout, de laminer globalement, je ne parle pas de cet imam, mais globalement, les libertés dans tous les sens, au nom d'un combat qu'on finit par perdre. Parce que ce qu'on veut défendre, c'est précisément aussi la liberté.
Et on verra, puisque la décision du Conseil d'État devrait être rendue aujourd'hui ou demain. Je voudrais que vous écoutiez ce qui s'est passé au Festival Techno du Touquet ce week-end. Emmanuel Macron était présent, il était au Touquet et il était présent dans le public. Et il y a eu ce musicien, Marc Rébillet, qui a joué et crié ça. Alors c'est assez clair, l'entend, Macron enculé, Macron tu dégages, Macron fuck you, est-ce que ça vous choque ?
Bon écoutez, forcément, j'aime pas tellement cette forme-là, ça exprime une colère, vous imaginez bien que moi en tant que femme politique, ce ne sont pas des termes qui me plaisent, mais il faut entendre la colère plus globalement, hein. Je veux dire, dans notre pays, moi j'entends beaucoup de choses qui ne sont pas forcément ces propos
publics. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'insulte ? Là, c'était de l'insulte, alors il répond, lui, que ça ne le choque pas, que tout le monde a besoin d'être remis à sa place de temps en temps, y compris le président.
Voilà, moi je suis pas fan de cette forme-là, mais j'entends en même temps dans le pays cette grande colère. Vous savez, on est dans un moment politique un peu particulier parce que il y a une tripartition avec trois pôles, le pôle de l'extrême centre, le pôle de l'extrême droite qui est menaçant, qui est inquiétant et qui vous savez, je crois est très dangereux et porte en germe le fascisme, et nous un pôle social et écologique qui est nouveau.
Vous êtes les seuls à pas être
avec
extrême.
La NUPES. J'entends ce que vous voulez dire.
Que tous les autres sont extrêmes, y compris le centre, mais vous le seriez pas, quoi.
On est un pôle social et écologique qui a vocation à porter
le centre et les autres sont extrêmes.
Non, je crois pas qu'il y ait de centre. Je crois qu'il y a trois propositions politiques.
Et c'est évident.
On va pas polémiquer sur le mot extrême. Il y a trois propositions.
Et on verra évidemment, puisqu'il y aura la rentrée parlementaire, on verra si vous êtes capable de travailler ensemble les uns et les autres. On a vu en tout cas que sur certaines propositions, pour une fois, peut-être que et le gouvernement.
Vous l'avez vu sur la taxe sur les superprofits, puisque nous allons lancer, suite à la proposition d'Olivier Faure,
un référendum d'initiative populaire.
Donc j'appelle d'ores et déjà à signer la pétition que nous avons lancée et nous allons nous organiser pour décrocher les 4,7 millions de signatures nécessaires pour enclencher. Maintenant, si Madame Borne décide qu'il n'y a pas besoin de le faire et qu'elle avance là la rentrée parlementaire, on fait une session et on va tous voter pour cette loi, j'en serais absolument ravie, on gagnerait l'énergie puis on continuerait à lui demander le SMIC à 1500 euros et tout
et
le reste
que le début.
De ce que nous
Clémentine
avons.
Autain.
Le blocage des prix de produits de première nécessité, ça
merci
bien
d'avoir répondu à mes questions ce matin dans le face-à-face. Vous êtes députée la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, 8h54 sur RMC BFM TV.